Il est 11h38.
La voix est libre au FM 93. Voici La Voix.
Es-tu devenu vert, vert, vert?
Ah, écoute, j'ai pris un coup tellement fort que le lendemain matin, t'es vert. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Écoute, ils t'ont laissé toute seule ce matin?
Ils m'ont laissé toute seule. J'ai épuisé les milléniaux.
Ben oui, t'es épuisé totalement.
C'est ça. Après l'expérience, avoir travaillé deux mois avec moi, Jeff avait besoin de 7 jours de vacances, incluant ce lundi. Et après avoir travaillé une semaine avec moi, Paul Lafelle avait besoin d'une semaine, d'une journée de vacances.
Hey, moi, j'ai fait combien de mois avec toi? C'était le temps que ça arrête. Ouais,
mais
quand
toi, t'es un boomer, c'est pas pareil.
Ah oui, c'est vrai, les boomers, c'est tough.
on est tough. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous reprochent, ils vont devoir nous faire vivre longtemps, longtemps, longtemps. Parce qu'on a contribué à notre RRQ pas mal moins qu'eux autres ne contribuent au nôtre. On les a dévalisés. Puis là, ils se vengent en se présentant pas au travail, tu sais.
Voilà.
Non, c'est pas vrai. Ils avaient droit
alors,
à
alors, as-tu verdi en fin de semaine?
Ils vont travailler tout l'été, là, les milléniaux. C'est honnêtement, là, ce sont des vaillants. En fait, un millénial
ben oui,
qui aime son travail, il est vaillant.
Oui, oui, moi, cette affaire-là de dire que la nouvelle génération, vous savez, mes parents disaient la même chose à mon sujet, puis leurs parents disaient la même chose à leur sujet, puis... Je veux dire, la jeunesse, c'est plein d'énergie, puis c'est plein de renouveau, puis de changement, puis il faut vivre avec ça, hein? C'est merveilleux même.
C'est ça. Et ils nous mettent le nez dans notre caca un petit peu, là, parce que c'est vrai qu'ils vont avoir financièrement une vie plus difficile que la nôtre.
Je pense que la moyenne des nôtres. Oui, mais oui et non, il faut faire attention, j'aimerais bien regarder des statistiques là-dessus. Le fait est qu'on est en situation de plein emploi, on est dans une situation de grande prospérité, comme on n'en a pas vu depuis, ma foi, les années 60, début des années 70. Pénurie de main-d'œuvre égale augmentation des salaires. Pas sûr de ça, je suis pas sûr qu'ils vont s'en sortir si mal que ça, on verra, mais en tout cas, nous, on va rester en boomer. Allô, Myriam!
Comment t'as trouvé le virage vert de la CAQ?
Écoute, je vais te dire le fond de ma pensée. J'ai regardé ça commencer vendredi, là. Puis là, les pancartes, cette assemblée carboneutre, puis toutes sortes de patentes du genre. Me suis dit, oh mon Dieu, la petite mise en scène cucu, ça n'a pas de bon sens. Où est-ce que ça va mener, cette affaire-là, avec Dominique Champagne, qui, pour une fois, s'est enlevé les deux orteils de nez socket de 220. Il avait les cheveux peignés à peu près comme du monde.
C'est que toi, contre le look hirsute?
C'est parce que dans son cas, je trouve que, comment les Français disent, c'est savamment négligé, n'est-ce pas? Enfin, donc je les regarde aller, puis je vois le spectacle donné par Dominique Champagne, puis...
Hey, le petit macaron,
parti,
j'aime mon premier ministre.
Le petit macaron, j'aime mon premier ministre, patati patata. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette bouillie pour les chats? Et soudainement, j'ai entendu le discours de François Legault. Moi, personnellement, je peux pas dire que j'ai vu des dizaines de discours de François Legault, mais c'est le meilleur discours que je l'ai entendu livrer en termes de cohérence, en termes de vision, en termes d'élan. Je trouve que, honnêtement, là, au bout de toute cette mascarade, ou ce qui me semblait être une mascarade, il a récupéré l'affaire avec une beauté absolument extraordinaire. Tu sais, en gros, là, il les a laissés s'époumoner avec leur histoire de faut plus manger de steak, puis c'est ci, puis c'est ça, là. Puis quand il est arrivé, il a dit, moi, je veux du concret. Puis le concret, c'est que nous, au Québec, on dispose d'une richesse qui est unique. C'est l'hydroélectricité. Alors, électrifions-nous dans les plus brefs délais et exportons de l'électricité et produisons de l'électricité. C'était à la fois un moteur pour notre économie et pour ceux qui sont profondément préoccupés par la question des gaz à effet de serre, écoute, peux-tu avoir mieux que l'électricité? L'hydroélectricité, ça pollue pas, ça fait pas de gaz à effet de serre.
Mais ça insinue aussi aux écolos, quand je voudrais harnacher une autre rivière, sacrez-moi patience, par exemple.
Ah oui, ça aussi, ça fait partie. Et là-dessus, j'ai trouvé,
t'as
vu hier
clairement.
Dominique Champagne. Non, mais le message est implicite. Je veux dire, t'as entendu Dominique Champagne dire, après son discours hier... Non, j'ai rien de négatif à dire. Il a dit, j'ai plutôt l'impression de, je viens d'entendre le discours d'un chef d'État. Alors, tu sais, ça se joue à deux, ce jeu-là. Là. Tu sais, Champagne, c'est un metteur en scène qui a mené cet improvisé grand gourou de l'écologie. Puis il s'est servi de sa visibilité, la visibilité que lui donnent les artistes avec lesquels il travaille, puis il est devenu une espèce de vedette, puis tout ça. Puis là, il était le porte-étendard d'une vision extrêmement radicale des changements qu'on doit apporter à notre société, à notre économie, les changements littéralement dans la mentalité des gens, vision que les gens n'épousent pas naturellement, comme tu le sais. Et puis, en bout de ligne, il se retrouve avec un discours où on dit, écoute, on va développer l'hydroélectricité, on va en vendre, on va construire des moyens de transport en commun qui vont être électrifiés de A à Z, et c'est comme ça qu'on va combattre les gaz à effet de serre. Et il l'a comme récupéré, c'est comme, garde, comment veux-tu me critiquer maintenant, mon Dominique?
Ben là, il fait
t'étais
des choses,
là.
Il fait des choses concrètes, d'abord. Il y a aussi il reconnaît cependant que dans les régions, c'est illusoire de parler de transport en commun. Donc, il dit, il va falloir que ce soit par la voiture électrique, mais la voiture électrique dans les régions qui sont un peu éloignées. Moi, je connais beaucoup de gens qui, au Saguenay, ben oui, là, faisaient des 80, 90 kilomètres pour aller travailler, là. Tu peux pas être en voiture électrique dans la condition actuelle des voitures électriques.
Dans la condition actuelle. Mais ça, tu vas être d'accord avec moi qu'à l'heure actuelle, toutes les grandes compagnies automobiles ont dans leur carnet, là, des choses qui sortent graduellement. On dit que d'ici à peu près 18 mois, il va y avoir 26-27 nouveaux modèles de voitures électriques qui auront en commun une chose, une plus longue autonomie.
Mais t'as les hybrides. La solution, c'est les voitures hybrides, effectivement, et maximiser le covoiturage, notamment dans les villages. Là, Facebook a commencé à faire ça. Hein, quand t'as des pages Facebook pour certains villages.
Ouais.
Puis bon,
oui, oui.
Alors ça va se faire, mais je trouve que de dire on n'essayera pas de mettre du transport en commun à Saint-Léon Profond ou à Saint-Profond-des-Creux,
à Rimouski,
ou à Rimouski, peu importe. Bon,
c'est tout à fait assez logique. Mais tu comprends, il y a une chose par contre qui et là on verra dans l'exécution, l'expression favorite de M. Legault, on verra dans la mise en œuvre. Ce que je crains, par contre, c'est une autre bébelle qui va devenir gouvernementale. J'espère que tout ce qu'il nous a donné hier comme vision va laisser beaucoup de place au privé et le moins possible à l'appareil gouvernemental qui va finir par tous les roser. C'est la nature de la bureaucratie de ne pas être capable d'être agile et je pense qu'il va falloir qu'il procède. Tu sais, on veut pas créer de monstres, de nouveaux monstres. Je lisais aujourd'hui quelqu'un qui suggérait la création d'une société de l'écologie. Non! Non! C'est pas ça, l'affaire.
Ah non, puis Michel Hébert fait remarquer d'ailleurs que ceux qui prêchent l'écologie puis qui disent au gouvernement « fais quelque chose », ils ne suggèrent rien de précis.
Effectivement.
Les jeunes qui ont manifesté l'autre jour, un beau vendredi après-midi, là.
Mm-hmm. Il faisait beau, puis c'était le fun.
Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus?
Exactement.
Alors, là, il y a quand même des propositions qu'ils font, puis tu as raison, le danger, ça va être de bureaucratiser ça. Là. S'ils veulent éliminer le plastique ou lutter contre le suremballage, ça va être la création d'inspecteurs du suremballage, puis là, on va
manifester. Ouais, il faut éviter ça. Il faut trouver une façon plus inventive de fonctionner, parce que si on arrive dans exactement ce que tu es en train de décrire, tout ça va se mettre à se paralyser, puis excuse l'expression, à se morpionner, ça va être l'enfer, tu sais. Alors, mais l'élan, tu sais, l'idée d'aller prendre d'un côté la question environnementale, puis de l'autre côté le développement économique, puis les souder en deux, puis dire c'est comme ça qu'on va se développer, s'enrichir, et c'est comme ça qu'on va éliminer des gaz à effet de serre sur notre territoire.
Ah, c'est sûr.
Et pour le reste de l'Amérique.
Et si l'argument que je pense imparable, c'est, regarde, si j'arrive à vendre de l'hydroélectricité à New York, on va noter des voitures du trafic, là.
Effectivement, c'est vrai.
On va noter de la pollution. Cependant, ça veut dire, si j'ai besoin d'un barrage, commence pas à me faire une guerre. Parce que si on avait écouté les écolos...
Ah ouais, fais-moi pas le coup.
Si on avait écouté les écolos, là, la romaine serait parnachée, puis la bétail...
La grande baleine l'a pas été, puis elle l'a pas été à cause de toute une espèce de cabale qui était menée un peu partout. Je me souviens un jour d'avoir été à New York pour quelque chose qui avait rien à voir, puis tout à coup, oups! qu'est-ce que je vois? Je pense que c'était des cris, n'est-ce pas?
Oui.
Avec une espèce de canot d'écorce, puis il était devant l'édifice des Nations Unies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Puis c'est que il se présentait comme un peuple victime, là, tu sais, d'un quasi-génocide. Oups! Mais Grande Baleine, il va falloir le regarder de nouveau. C'est pas pour rien qu'Hydro-Québec l'avait favorisé. C'est parce que Grande Baleine offrait les meilleures conditions possibles pour produire au meilleur coût possible. Je sais pas s'ils vont être capables de ressusciter celui-là. Si j'étais eux, puis on a l'air d'être pas mal bon dans le domaine des communications, la CAQ. Change de nom. La baleine, on va l'appeler le requin, tu sais, ou un affaire nommée. Le dauphin. Le phoque.
Comme disait le projet la chanson, du phoque. Je ne suis pas une baleine qui se cache à l'eau pour avoir le dauphin.
Ha! 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 Bonne celle-là, je la connaissais pas.
Chanson. Vieille des compagnons de la
vieille,
chanson.
Vieille. Une chanson de boomer.
C'est ça. Ils veulent quand même retirer le plastique à usage unique. Alors, oui. Tout est dans la manière de le faire encore. La mise en place de mesures contre le suremballage. C'est là que j'ai peur qu'on se mette à avoir des inspecteurs du suremballage. L'augmentation du recyclage du verre. Ils vont finir par faire une consigne sur le verre? Pas si t'as vu, je pense
j'espère que oui.
En Nouvelle-Écosse, ils ont fait ça. Ils l'ont donné au privé. C'est assez fascinant ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est en Nouvelle-Écosse.
Ça a marché, hein?
Oui. Ils ont, en fait, ils mettent une consigne sur le verre. Quand tu ramènes ta bouteille, tu reçois la moitié de ta consigne. Tu payes 20 cents, par exemple. Okay? Oui. Tu reçois la moitié de ta consigne. Tu ramènes ta bouteille dans des entrepôts privés. Ce sont des compagnies privées qui se financent avec le 10 cents qu'ils gardent.
Voilà des solutions créatives. Voilà, regardons ce qui se fait ailleurs. Ça, c'est une belle approche.
Et ils recyclent, il me semble que ce que j'ai lu, c'est 80% de leur verre.
Il faut que tout ça s'intègre à l'économie. Il faut que tout ça aussi arrête de faire penser à tout le monde. Quand on les écoute, écoutez, à cause des gaz à effet de serre, il va falloir s'appauvrir. Les gens ne les suivront pas. Non. Ils ne les suivront pas. Cependant, si je te dis, l'environnement en soi est une opportunité économique extraordinaire. Hmm? Tu vois là, ce que tu viens de décrire, là, c'est sur une petite échelle, mais ça peut se faire sur des bien plus grandes échelles. L'environnement, dans notre cas, c'est formidable. C'est nous autres qui avons la forme d'électricité la plus propre sur la planète.
D'un autre côté, moi, je suis toujours inquiète. Quitter un oligopole pour me jeter dans les bras d'un monopole, même s'il est un monopole d'État, ça m'inquiète un peu.
Mais tu fais référence à quoi, à l'oligopole?
Hydro-Québec.
Mais l'oligopole?
Les compagnies pétrolières forment une espèce de
oligopole. Ah, d'accord. Ah, je comprends, oui.
Bon, puis...
Non, mais là-dessus, je te suis complètement. Puis Hydro-Québec devrait peut-être... Tu sais, à l'époque, il avait créé la Société d'énergie de la baie James, qui était comme une filiale qui faisait que ça. Est-ce que ça a été une bonne idée? Est-ce que ça a donné des bons résultats? Je le sais pas. Mais je m'objecterais à dire, sur la structure existante d'Hydro-Québec, je vais en rajouter 4 couches parce qu'on fait plus d'affaires. Pas sûr que c'est la bonne approche. Le monopole, ça donne toujours des mauvais résultats, ultimement.
D'ailleurs, il y a un auditeur qui t'explique que la coiffure de Dominique Champagne, ACDC, c'est courant alternatif, courant direct, DC. Puis probablement que lui, il s'est branché sur le DC, vu que son nom, c'est DC.
C'est DC.
Mais je trouve qu'il l'a quand même joué assez souple, Dominique Champagne, plutôt que
de... Il était assez intelligent, même de son point de vue, c'est pas bête, hein. Le gars, il vient de se créer une... Là, il cesse d'être le marginal qui craint les artistes, puis il devient quelqu'un qui est une caution pour le gouvernement. Mmh. Alors, il va y avoir un retour d'ascenseur éventuellement. Tu sais, le gouvernement aime ça, là, avoir Dominique Champagne dans son camp qui dit « j'aime mon premier ministre ». J'imagine qu'éventuellement, il va être capable d'avoir un peu... Tu sais, je parle de son point de vue, je dis pas que c'est ce que je souhaite, mais son point de vue à lui, c'est qu'il vient de se démarginaliser, il vient de rentrer dans le mainstream, comme on dit.
Mais la logique devrait les pousser également à approuver l'oléoduc, parce que l'oléoduc de l'Ouest, d'abord, c'est une façon sécuritaire de transporter le pétrole qui est encore inévitable, mais ensuite, le but, c'est de faire augmenter le prix du pétrole pour les Albertains. S'ils arrivent à sortir leur pétrole, le pétrole va augmenter. Or, c'est ça qu'ils veulent, que le pétrole augmente pour rendre l'électricité plus attrayante.
Oui,
alors, tout à fait. Donc, si on était logique, on laisserait passer l'oléoduc.
Aussi, ce matin, une nouvelle qui fait pas des grosses manchettes, mais moi, m'a frappé. Elisabeth May, la chef du Parti vert, qu'on n'écoutait pas beaucoup avant parce qu'elle était tellement marginale, mais là, les intentions de vote dans l'Ouest, en particulier en Colombie-Britannique, pour les Verts, c'est quand même extraordinaire. Alors, Elizabeth May a annoncé qu'elle est en faveur du concept de corridor énergétique avancé par Andrew Scheer. Écoute, là, m'a dit, là, ça devient... Parce que toute la logique... Non, je devrais pas dire la logique. L'absence de logique de ceux qui s'opposent à l'oléoduc, je ne la comprendrai jamais. Et je mets dans le paquet M. Legault. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je dis, d'abord, tu viens de le dire, on peut pas s'en passer du pétrole pendant encore un bon petit bout. Deuxièmement, la méthode la plus sécuritaire pour le transport, c'est l'oléoduc, il n'y a aucun doute. Troisièmement, l'Alberta, c'est un partenaire à nous, que ça nous plaise ou non. À plus d'un égard, pas seulement parce qu'on a de la péréquation, mais parce que ce sont généralement des ingénieurs du Québec qui conçoivent tous ces projets-là dans l'Ouest. Et ultimement... Je comprends pas que Legault, un homme d'affaires qui aime ça se décrire comme l'entrepreneur, a pas eu le réflexe entrepreneurial de dire, OK, il y a de l'objection à ça ici au Québec, mais avant de qualifier ça de pétrole sale puis de dire il y a pas d'acceptation sociale, je voudrais m'asseoir à l'Alberta pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi. Combien t'es prêt à payer pour utiliser mon territoire? Tiens, pourquoi
d'un
je
coup,
pas
il
ça?
Y aurait des redevances qui nous permettraient de bonifier certaines choses. Mais...
De bonifier, entre autres, notre construction de barrages, s'il le faut. Tu sais, je comprends. C'est des revenus. T'as vu les reportages en 20 semaines sur la vétusté des hôpitaux. Ça prend de l'argent pour arranger ça. Pourquoi on s'obstine à dire il passera pas d'oléoduc ici? Ben, voyons donc, il en passe beaucoup de pétrole sur le territoire québécois. En train. Rappelez-vous Lac Mégantic, aimez-vous ça? On veut plus ça. Alors.
Parlant des Verts, en Europe, il y avait des élections au Parlement européen. Et ceux qui ont gagné sont des gens qui semblent... Ça semble contradictoire, mais ça ne l'est pas dans mon esprit à moi. Là. Il y a les Verts qui ont gagné et il y a le Front national avec Marine
les
Le Pen.
Les eurosceptiques en général, puis le Front national.
Ceux qui voudraient que les États reprennent un peu le contrôle.
Oui, que Salvini en Italie, entre autres, qui a fait un score incroyable au-dessus de 30%. Oui.
Dans les deux temps, moi, je vois là des gens qui essayent de reprendre le contrôle de l'agenda.
Oui, tout à fait. Et qui disent, la vieille façon de faire de la politique qui a eu cours depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant, on n'en veut plus. Ceux qui ont mangé une volée, là, c'est les vieux partis traditionnels. Donc, on s'attendait réellement à la veille de l'élection à une vague eurosceptique nationaliste à l'européenne beaucoup plus grande que ce qu'on a eu. C'est pas aussi catastrophique qu'on pensait que ça pouvait l'être. Mais on a vu la montée des Verts. C'est quand même incroyable. Ils ont monté beaucoup, là. Ils ont monté, là, dans des endroits comme en Belgique, dans des endroits comme en France. Ils ont monté d'une façon extraordinaire. Maintenant, tu prends le cas de Salvini en Italie. Traditionnellement, depuis la création de l'Union européenne, le pays le plus pro-européen avait toujours été l'Italie parce que ça servait pleinement leurs intérêts puis ils se sentaient pas menacés sur le plan culturel. Maintenant, il est arrivé la vague des réfugiés venus d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne par des bateaux, là, tu sais, cette espèce de commerce d'esclaves quasiment. Et tous ces bateaux-là, ils aboutissaient où? Quand tu sais, ils dérivaient puis ils aboutissaient où? Sur une île italienne qui s'appelle Lampedusa. Lampedusa, c'est une toute petite île, là, bon. Et là, ils se sont retrouvés remplis de milliers, de milliers, de milliers de ces réfugiés-là par devoir humanitaire. Puis il y a des gens comme Salvini et d'autres qui ont réussi à mettre dans la tête des gens en Italie parce qu'ils en ont marre d'être la place où ils n'ont pas le choix de prendre toutes ces milliers et ces dizaines de milliers de réfugiés. Ils ont dit « c'est à cause de l'Union européenne ». Si c'était pas de l'Union européenne, on pourrait fermer nos frontières. Je suis pas sûr que c'est vrai, soit dit en passant. Mais c'est là-dessus qu'ils carburent. Puis moi, j'ai des amis italiens, évidemment, comme t'en as. Il y a eu beaucoup d'immigration italienne ici, là, puis des gens de première génération ou deuxième. Écoute, c'est incroyable s'ils sont radicaux. Hein. C'est comme Salvini, on s'en balance, mais c'est lui présentement qui fait la job. On veut plus être l'endroit où aboutissent les bateaux de réfugiés. Terminé. Aucune autre discussion possible.
Mais c'est quand même étrange, Luc, que des gens qui ont immigré au Canada soient contre l'immigration dans leur pays.
Ouais, mais ils sont contre l'immigration d'Afrique. Attention, faut pas oublier ça dans l'équation. Ils ont pas de problème en Italie avec l'immigration en provenance de la France. Ils ont pas de problème avec l'immigration en provenance des Pays-Bas. Ils ont un problème avec les réfugiés qui arrivent d'Afrique. Ils sont musulmans, ils sont pas de la même culture, ou ils sont noirs. Et en Italie, t'as été en Italie, j'imagine?
J'y vais au mois de juin. Je vais passer mon mois de juin.
Ah bon? Mais tu vas voir dans les grandes villes italiennes que les réfugiés dont on parle sont ghettoisés au max. Là. Tu sais, t'arrives, tu te promènes dans Rome, tout à coup, oups, juste à côté de la grande gare de chemin de fer de Rome, là, t'as tout un coin, là, puis tu vois que c'est un ghetto complet de gens venus d'Afghanistan, puis venus d'Algérie, puis venus d'un peu partout. Et ça, les Italiens, tu n'as pas moyen de les raisonner. Alors, Salvini, son score, un peu comme le Brexit, d'ailleurs, oublie pas que le Brexit, les gens n'ont pas voté contre l'Europe, ils ont voté contre l'immigration. Ils ont dit c'est à cause de l'Europe, c'est à cause du traité de Schengen qui fait que les frontières n'existent plus entre les pays membres. On veut remettre nos frontières ici, puis le Brexit, tout à coup, boum, la catastrophe s'en vient avec, mais c'est ça le fond de l'histoire. Mais donc, résultat des élections européennes, la mort annoncée, chronique d'une mort annoncée, là, comme l'écrivait Gabriel Garcia Marquez, dans ce cas-là, c'est la chronique de la mort annoncée des partis traditionnels. Ils en ont mangé une joyeuse. Ils se sont totalement marginalisés, montée très importante des Verts, et surtout apparition partout en Europe de partis eurosceptiques, on les appelle, qui sont généralement des nationalistes de droite et qui apparaissent de plus en plus nombreux.
Et qui commencent cette année de voir que des fonctionnaires à Bruxelles décident ce qui se passe jusqu'au fin fond de l'Espagne.
Exactement. Exactement. Hein, c'est un peu comme ici au Canada quand les indépendantistes et les nationalistes disent « Ottawa décide tout, puis nous autres, on... » Mais c'est un peu différent quand même.
De la même façon que du fin fond de l'Arkansas ou de l'Oklahoma, ils en avaient marre de voir Los Angeles et New York gérer le pays. Puis ils ont envoyé
Exactement. Trump. Et Washington, évidemment.
Merci.
Et ça donne des bons résultats. Hein.
On s'amuse.
T'as bien plus de fun quand t'es en tête-à-tête avec un boomer. Dis-le.
On n'est pas en tête-à-tête. Dis-le. Il y a des milliers de personnes qui nous écoutent en plus.
Ah ben oui, c'est vrai, mais oui, mais...